Vous écoutez
RMC.
Il est 8h, tout pile, très belle journée. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC. Apolline Matin.
Le journal des 10 d'Angers. Bonjour Alice.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Comme un goût de victoire avant l'heure, à 48 heures du premier tour des législatives, les électeurs du Rassemblement National y croient plus que jamais. Le dernier sondage Elabe publié ce matin leur donne même la possible majorité absolue.
Et ce matin, pour la dernière journée officielle de campagne, mon invité c'est Gabriel Attal, le Premier ministre. Et on continue à préparer cette interview ensemble. Vous m'envoyez vos questions au 3216.
Le russo-ukrainien arrêté en région parisienne début juin voulait commettre un attentat dans un magasin Bricorama. On l'avait retrouvé avec des explosifs dans sa chambre d'hôtel. Et puis l'Union Bordeaux-Bègles va-t-elle pouvoir arracher la victoire au Stade Toulousain, 22 fois champion de France? C'est la finale du top 14 ce soir.
Le Rassemblement National s'y voit déjà.
Et il aurait tort de se priver. Les sondages ne font que confirmer la course en tête qu'il mène depuis le début de cette campagne éclair. Dernier en date, celui d'Elabe ce matin pour BFM TV et La Tribune dimanche. À deux jours du premier tour des législatives, le RN est stable à 36% devant le nouveau Front Populaire à 27,5% et le camp présidentiel crédité de 20% des voix. Un scénario dans lequel le parti de Jordan Bardella pourrait décrocher la majorité absolue. Reste plus qu'à transformer l'essai pour ses électeurs RN du Gard, Estelle Henry.
C'est pleine d'enthousiasme que Noémie, banquière de 27 ans, découvre les résultats du sondage.
C'est génial, c'est énorme. Ça montre bien qu'il y a des choses à modifier et que les gens montrent leur colère.
De la joie et l'envie d'y croire, mais avec prudence.
On attend surtout les résultats pour être bien rassurés. Il y a le premier tour, mais il y a aussi le second tour. Et c'est là où ça va se jouer. On sait très bien ce qui s'est passé quand Emmanuel Macron a été réélu. On était tous confiants et puis au final, ça s'est pas fait.
Aucune réserve en revanche pour Paola, 58 ans.
J'y crois à 1000%. C'est la première fois de ma vie que je suis autant enthousiaste.
Elle qui vote depuis ses 18 ans à l'extrême droite ne comprend pas la peur qu'inspire son parti.
N'ayez pas peur. Il peut pas nous arriver pire que ce qu'on vit aujourd'hui. Donc essayez-le. Et on verra bien. Faites confiance aux jeunes.
Théo a tout juste 4 ans de moins que Jordan Bardella. Ce conducteur d'engin est convaincu, lui aussi, qu'il sera le prochain Premier ministre.
Je pense que ça va faire du bien, que tout le monde attend ça. Tout le monde est content qu'ils arrivent au pouvoir. Je suis serein.
Et pour Théo, la jeunesse de Jordan Bardella est un réel atout par rapport aux autres candidats.
Et il n'y a pas que les électeurs qui s'y voient déjà. Dans une interview au Télégramme, Marine Le Pen assurait que Jordan Bardella avait déjà fixé ses lignes rouges, notamment dans le soutien à l'Ukraine. Le président du Rassemblement National l'a d'ailleurs répété hier soir pendant le débat. Le titre de chef des armées du président n'est qu'honorifique. Un excès de confiance qui agace au plus haut sommet, Romain Cluzel.
Oui, le président de la République lance une nouvelle charge contre Jordan Bardella et Marine Le Pen. Emmanuel Macron s'est exprimé tard hier soir à Bruxelles à la sortie du Conseil européen.
Mais quelle arrogance! C'est-à-dire que tout le débat aujourd'hui fait comme s'ils étaient déjà dans la place. Au fond, il ne faudrait pas aller voter. Après m'avoir reproché pendant 15 jours d'avoir demandé souverainement aux Français d'aller voter, maintenant, il ne faudrait plus aller voter. Tous les postes sont déjà répartis. Ils sont déjà là dans la place. La question maintenant est celle des modalités. Mais les Français n'ont pas choisi.
Le chef de l'État tente une dernière fois de mobiliser alors que l'inquiétude monte dans son propre camp. Un poids lourd du gouvernement décrit une campagne très difficile, écrasée entre deux blocs, comprendre bloc du Nouveau Front Populaire et du Rassemblement National. Un autre ministre veut malgré tout croire à un sursaut de dernière minute. Ce sursaut, il existe au moins pour la participation. Selon le sondage Elabe, jusqu'à 65% des électeurs pourraient se déplacer dimanche, à un record depuis 2002. Mais pas sûr que cette mobilisation profite au camp présidentiel. Un Français sur 4 pourrait changer d'avis d'ici dimanche. Ils sont même 30% parmi les électeurs de l'Alliance présidentielle.
Et dimanche soir, ne manquez pas notre soirée spéciale législative sur RMC, émission animée par Olivier Truchot dès 19h45 avec les résultats de ce premier tour, les réactions politiques et nos reporters sur le terrain. Emmanuel Macron qui dénonce également une parole désinhibée après la sortie d'un député RN sur les binationaux et notamment sur l'ancienne ministre de l'Éducation, Najat Vallaud Belkacem, franco-marocaine. Le président qui fustige une dissolution des esprits et des consciences. Il s'exprimait depuis Bruxelles où les 27 ont trouvé un accord pour reconduire Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne malgré les résistances de l'Italie et de la Hongrie. Un deuxième mandat qui doit encore être confirmé par une majorité absolue d'eurodéputés mi-juillet. Du nouveau dans l'affaire du russo-ukrainien arrêté début juin en pleine fabrication d'explosifs dans sa chambre d'hôtel près de l'aéroport de Roissy. Le suspect, mis en examen et incarcéré, prévoyait de commettre un attentat, Guillaume Bier, devant un magasin de bricolage.
Oui, c'est ce qui ressort de l'enquête menée par la DGSI. Le suspect, un homme de 26 ans, avait pour objectif de faire exploser une bombe artisanale au petit matin devant un magasin Bricorama dans une zone commerciale au nord de Paris, révèlent nos confrères du Monde. Projet d'attentat avorté, le TATP très instable qu'il fabriquait dans sa chambre d'hôtel lui a explosé au visage, ce qui a conduit à son arrestation. Cet ancien combattant pro-russe, originaire du Donbass, voulait donc causer des dégâts matériels sans faire de victimes, mais son action aurait été pilotée depuis la Russie dans le cadre d'une large campagne de déstabilisation, estiment les services de renseignement, qui font le lien avec d'autres actions de sabotage ou d'incendie récents en Allemagne, en Pologne ou encore à Prague.
8h05 sur RMC, c'est la finale du top 14 ce soir. Une première pour l'Union Bordeaux-Bègles qui va tenter d'arracher le titre au stade toulousain d'Antoine Dupont. Un derby de la Garonne qui se jouera au stade Vélodrome de Marseille. Coup d'envoi à 21h05 sur RMC. Et ce match, Winnie Claret, c'est un peu David contre Goliath.
22 titres de champion de France pour le Stade Toulousain face à une Union Bordeaux-Bègles qui va disputer sa toute première finale de top 14. Le demi-mêlé et capitaine de l'UBB Maxime Lucu mesure l'ampleur du défi face aux Rouges et Noirs.
C'est clairement une montagne au vu de leur saison, au vu du palmarès qu'ils ont aussi. Des titres ils savent en gagner. Voilà, nous on arrive là avec notre première finale, donc forcément qu'il y aura entre guillemets du déséquilibre dans l'expérience.
Le trois quarts centre bordelais Yoram Moefana, formé dans l'ombre de Toulouse à Colomiers, assume la supériorité de ses adversaires.
On sait que le Stade Toulousain c'est un grand club et je pense que c'est le meilleur club du monde, donc franchement très excité de pouvoir jouer ce match face au Stade Toulousain.
Pour son entraîneur, l'ex-Toulousain Yannick Bru, il n'y a qu'une seule façon de battre les champions de France en titre.
On sait qu'il faudra qu'on fournisse notre meilleure performance de la saison et de manière constante, et il faudra aussi que nos joueurs se hissent à leur meilleur niveau. Puis si on fait ça, après on verra ce que décident les dieux du rugby.
Maxime Lucu va plus loin, le sport est fait pour renverser beaucoup de choses, dit le numéro 9. Les Bordelais devront soulever une montagne pour l'emporter ce soir.
Du rugby ce soir et le Tour de France qui démarre demain et c'est une première. Le peloton s'élancera depuis Florence en Italie pour rejoindre Nice où Vingegaard tentera de décrocher son troisième maillot jaune consécutif. Nice et pas Paris, ça aussi c'est une première car la capitale se prépare à l'arrivée des Jeux Olympiques. D'ailleurs, les trois agitos, symboles des Jeux Paralympiques, ont été posés cette nuit sur l'Arc de Triomphe.
C'était le journal d'Élise Dangean et je voudrais qu'on souhaite la bienvenue à nos nouveaux auditeurs de Dourdan dans l'Essonne, puisque la famille RMC s'agrandit. Il y a un nouvel émetteur depuis cette nuit à Dourdan où vous pouvez désormais nous écouter sur la fréquence 90.1. Bienvenue à vous tous de Dourdan. Il est 8h07.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
À deux jours du premier tour des législatives, est-ce que les bureaux de vote seront tous prêts? Eh bien, c'est pas garanti. Vous allez entendre dans un instant le maire de Châteauroux. Il nous alerte et il lance un véritable appel. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Mais tout de suite, on va surveiller vos messages sur l'appli RMC avec Direct Studio en ce dernier jour de campagne. Tiens, on vous pose la question, irez-vous voter dimanche? Est-ce que vous avez fait votre choix? Est-ce que vous faites partie de ce quart d'électeurs encore indécis? Olivier nous dit, pour moi, ça sera vote blanc. Aucun des trois grands partis ne me convainc à 100%. Dans mon coin, il n'y a aucun candidat très connu. Encore une fois, ils viennent réclamer nos voix pour obtenir des postes sans connaître notre quotidien. Laurent, lui aussi, nous dit, je n'irai pas voter. Ça fait 10 ans que je ne vote plus. C'est le meilleur moyen de ne pas être déçu. Voilà ce que pense Laurent. Marie, à l'inverse, nous dit, j'irai voter dimanche avec mon mari et notre fils de 18 ans, c'est la tradition. Le vote est un devoir pour moi. Mon fils vote pour la première fois cette année. C'est donc encore plus important de faire notre devoir de citoyen. Et puis Pierre nous dit, moi j'ai déjà voté, je vis à l'étranger, à Bruxelles, et comme à chaque élection, je me demande pourquoi on n'a pas encore instauré le vote sur Internet partout en France. C'est beaucoup plus pratique et peut-être que ça permettrait à certains de voter, nous écrit Pierre. Vous aussi vous témoignez ce matin, ça se passe sur Direct Studio et au 3216.
RMC au 3216,
45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16,
75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h11 et ce soir on arrête la campagne et dimanche on vote.
Le parti pris.
Et c'est avec vous qu'on en parle. Gilles Averrouze, vous êtes le maire de Châteauroux et vous êtes également à la tête de l'association des villes de France. Et quand je dis dimanche on vote, dimanche on doit aussi tenir les bureaux de vote. Vous lancez une alerte ce matin, on manque d'assesseurs, c'est ça?
Exactement, on manque d'assesseurs dans les bureaux de vote pour une raison assez simple, c'est que historiquement les partis politiques et les candidats désignaient des assesseurs et systématiquement à chaque élection nous transmettaient une liste de personnes qu'ils habilitaient à venir tenir les bureaux. Désormais, avec l'affaiblissement des partis politiques, on ne reçoit quasiment plus de propositions des partis ni même des candidats. Et donc ça nous oblige à trouver des citoyens, notamment dans les grandes villes, là où le nombre de conseillers municipaux suffit pas à tenir les bureaux. Donc c'est une vraie problématique au quotidien pour les maires d'organiser ces élections.
Étonnant, parce qu'effectivement, moi je n'imaginais pas que c'était pour cette raison-là, pour l'affaiblissement, c'est-à-dire qu'il y a moins de militants en fait.
Exactement, il y a moins de militants et le code électoral prévoyait que les candidats transmettent la liste des personnes qu'ils habilitaient à venir surveiller les élections.
Et vous faisiez attention, je prends juste un instant pour réexpliquer ces règles-là, vous faisiez attention à ce que dans chaque bureau de vote, il y ait des représentants des différentes sensibilités, des différents partis ?
Bien sûr, on y faisait attention, d'autant que les candidats désignent aussi des délégués qui viennent faire le tour des bureaux pour vérifier que ce soit bien le cas, vérifier que les élections électorales se passent bien, mais aussi que les assesseurs soient bien au poste.
Et pardon, mais je vous pose la question directement, Gilles Améous, est-ce que tous les partis, le nombre de personnes se sont effondrés, ou est-ce que vous avez un parti en particulier qui n'a plus vraiment de personnalité?
Non, c'est vraiment général aujourd'hui.
C'est général, quoi. Les partis ont moins de personnes engagés comme ça, capables de donner de leur temps pour vous. Alors vous allez faire comment? Vous allez vous retrouver comment du coup?
Alors on a cette chance là d'être au lendemain de l'élection européenne, donc on avait déjà un volet de volontaires qu'on va ressolliciter. Une partie d'entre eux sont partis en congé, donc on fait appel à nos personnels municipaux aussi. Alors il y a des règles, on peut pas les mettre forcément à la table derrière les urnes, mais on peut avoir des agents qui en heures supplémentaires viennent faire le secrétariat du bureau, donc viennent aider à remplir le PV, le procès verbal d'élection. Ce sont des gens qu'on rémunère, donc forcément ça a un coût. Il y a certaines villes, et vous avez pu le voir, je pense notamment à Nice ou à Besançon.
Nice a décidé de payer les assesseurs, c'est légal ça?
Exactement, aujourd'hui c'est pas légal, mais dans la mesure où considère qu'on n'est pas en mesure, on n'est pas en capacité de tenir les bureaux, il faut trouver une solution. Donc moi je comprends tout à fait le maire de Nice qui dit je vais
il
rémunérer.
Pas le choix, en fait.
Il a pas le choix, sinon il va pas pouvoir organiser les élections et le mal est pire. Il vaut mieux rémunérer, même si c'est pas légal, plutôt que de pas pouvoir tenir le bureau de vote.
Donc globalement, d'abord, je le dis, je le redis, franchement, engagez-vous les uns et les autres. Si vous êtes disponible dimanche après-midi, dimanche soir, allez tenir les bureaux de vote. Et puis la question aussi du coût global de ces élections. Ça vous coûte combien d'organiser ces élections, Gilles Améous? Vous avez les moyens, vous, à Châteauroux, par exemple?
Alors, si je prends l'exemple de Châteauroux, notre 31 bureaux de vote. Le seul fait d'avoir recours à nos personnels pour venir faire le secrétariat, qu'on va rémunérer donc en heures supplémentaires, c'est 7 500 € par tour d'élection. Donc d'accord, pour les deux tours, ça nous fera à peu près 15 000 € de frais engagés pour la tenue.
Qui n'étaient pas budgétés,
évidemment. Et qui ne sont pas pris en charge.
Gilles Améous, une question. On annonce une participation très importante. Vous manquez d'assesseurs. Ça veut dire qu'il va y avoir la queue, que ça pourrait, par exemple, déborder
exactement
après 20 h dans certains bureaux.
Exactement. Vous avez entièrement raison. On ne pourra pas déborder au-delà de l'heure parce que normalement, on ferme à l'heure prévue, donc il faut être rentré dans le bureau à l'heure prévue, donc il n'est pas question de faire des...
Rentrer à l'heure, c'est important de préciser cette règle, ça veut dire qu'en fait, vous fermez la porte à 20 h, mais ceux qui sont rentrés avant 20 h, au pire, il y aura un peu la cohue dans le bureau de vote, mais s'ils sont rentrés avant 20 h, ils ont le droit de voter, même si ça se termine techniquement à 20 h 20. Quoi.
Après, la consigne qu'on donne, c'est de dire aux gens de venir bien avant
l'heure. Bien sûr, et on le répète ce matin.
Exactement, et bien effectivement, le traitement des procurations, ça va forcément demander plus de temps qu'un vote par le citoyen
physique,
lui-même.
Classique.
Et exactement, aujourd'hui, on a déjà plus de 3 fois le nombre. Si je prends l'exemple de Châteauroux, on avait 450 procurations pour les élections européennes. Hier, on a dépassé les 1300 procurations.
Ah oui, donc effectivement, c'est considérable. Et d'ailleurs, au niveau national, on a dépassé les 2 millions de procurations. Je rappelle d'ailleurs qu'il est toujours temps ce matin de faire une procuration. Si vous ne l'avez pas fait, il n'est pas trop tard. Il est encore possible ce matin d'organiser une procuration pour le vote de dimanche. Merci Gilles Améous d'avoir répondu à nos questions ce matin et précisé donc cette situation. Vous n'hésitez pas non seulement à aller voter, mais à peut-être vous engager pour tenir le bureau de vote et pour être assesseur. Vous êtes le maire de Châteauroux, Gilles Améous, et président de l'Association des Villes de France. Merci à vous. 8h16.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Et voilà,
C'est tous
salut
les jours,
Arnaud.
Mais aujourd'hui, c'est la dernière chronique avant l'été.
Et alors, vous serez encore là, mais je pas complètement là la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'on aura quand même vos best-of.
Oui. Mais voilà. On va quand même rentrer dans une nouvelle période. Il y aura un nouveau gouvernement, les Jeux Olympiques. Tiens, j'ai appris qu'Ariel Dombal chantera pour l'arrivée de la flamme olympique à Paris. On nous aura rien épargné cette année. Hein. Moi, j'ai rien contre Ariel Dombal personnellement, mais moi aussi, si j'étais BHL, c'est son mari, moi aussi, je préférerais passer mes week-ends en Ukraine ou en Syrie, quoi, plutôt que de l'entendre répéter à la maison. Ariel Dombal qui chante avant un discours d'Anne Hidalgo. Après, les nageurs qui rechignent à se baigner dans la Seine, là, ils vont sauter dedans et s'appuyer en dos collé. Alors là, c'est parti. Et puis cet été, Emmanuel Macron va bien nous sortir une nouvelle dinguerie de son chapeau. J'ai décidé d'abdiquer en faveur de Louis Boyard. Oh, mais il reste des trucs que j'ai pas fait dans la Constitution. C'est quoi le gros bouton rouge?
Non,
touche pas. Le slogan du macronisme, c'est vraiment Emmanuel Macron. Ça peut toujours être pire. De toute façon, il n'a pas l'air parti pour s'arrêter. Plus ses proches lui demandent de rester en dehors de la campagne, plus il parle. Tout son entourage est en mode Alain Finkielkraut, c'est « Taisez-vous ! Taisez-vous !» Même François Hollande le bâche. Il a balancé « Le macronisme, c'est terminé, si tant est que ça a existé. Je le dis sans aucune hostilité. » J'aime beaucoup le « je le dis sans aucune hostilité ».
Oui, c'est vrai que c'est bien de le préciser.
Chez vous, hein. Si vous avez des voisins pénibles, vous êtes les cassos de l'immeuble. Plus personne vous supporte, bande de dégénérés. Mais je le dis sans aucune hostilité. C'est plus fluide dans le rapport. Alors j'ai dîné chez des amis hier soir. La grande question, ça a été « pour qui tu vas voter ?» On se la pose tous en ce moment, tout le monde est perdu. Moi, j'en suis à un point où j'hésite à voter Lyotte. Vous vous souvenez de Lyotte?
Ah ouais.
C'est
ah
liberté, oui. Indépendant, outre-mer et territoire. Je ne rêve que de ça en ce moment, d'une plage d'outre-mer, de sable fin. Je pourrais même écouter du zouk, alors que pourtant j'aime la musique d'habitude. Je peux vous dire où j'en suis.
La France est divisée comme rarement.
Oui, selon un dernier sondage, un Français sur deux détesterait l'autre Français sur deux. Ça clash, ça s'engueule.
C'est vrai.
Ah oui, on en est là, hein. Ça fait ressortir ce qu'il y a de pire chez certains, ces législatives. C'est un peu le petit miroir grossissant des salles de bain d'hôtel. Ça fait ressortir ce qu'il y a de pire. D'après les sondages, le 8 juillet, il y a mime sur RMC Story. Donc d'après les sondages, le 8 juillet, le RN devrait l'emporter et plus rien ne sera comme avant. CNews deviendra la télé officielle du gouvernement. Ils vont totalement se lâcher dès cet été. Hein. On aura les JO ou le Tour de France commenté par Christine Kelly. Ça va être décomplexé. Et bonjour, c'est le Tour de France, une épreuve mythique qui fait rêver les petits et les grands. Un sport qui récompense l'effort, l'abnégation, le travail, ce qui explique peut-être qu'il y ait si peu de musulmans dans le peloton. Et on va rejoindre l'hélicoptère du Tour avec Philippe Devilliers. Bonjour.
Oh, non.
Et tout à fait, nous sommes en direct du Tourmalet, Christine, où les coureurs viennent de franchir un quatrième col. Et vous l'avez dit, très peu de racisés dans le peloton, alors que d'habitude, ils aiment le vélo. Hein. Si, si, laissez votre bicyclette en Seine-Saint-Denis, vous allez voir à quel point ces gens-là aiment le vélo. Comme toujours, une analyse pleine de pertinence, Philippe. Mais je vous interromps, car le 100 mètres va démarrer. On rejoint Philippe Bilger aux Jeux Olympiques. Vous êtes sur place. C'est parti! Et voilà un avant à fermenter tire un coup de pistolet et une dizaine de noirs s'enfuient à toutes jambes. Est-on seulement surpris, Christine? Ça va être horrible, cette période. Ça va être horrible. Le vote va être dur.
Bon, en tout cas, dimanche, on vote.
Oui, alors moi, je découvre les candidats de ma circonscription. C'est le cas de tout le monde. C'est l'occasion de la dernière manche de notre grand jeu de campagne. Vrai ou faux candidat?
Allez.
Il en reste encore. Je vous rappelle le principe. Je vous donne deux candidats. Vous me dites lequel est le vrai entre Léo Bourré et Pascal Drogué.
Bourré.
Christelle Lassor et Georges Larentre.
Lassor.
Sophie Vaginet.
Non.
Ou Clément Pénissou. Non, Sophie Vaginet, c'est
vrai. Ah non, pas du cœur.
Nelly Actif et Jules Passif.
Non. Actif.
Actif.
Je refuse de jouer.
Anne-Catherine God ou Pierrick Plug.
God. Anne-Catherine God.
Anne Itty, ben oui, c'est son vrai nom.
Ah non.
Anne Itty ou Marielle Téléphone Maison.
Anne Itty.
Jean-Luc Sado, Nathalie Mazot.
Nathalie Mazot.
Attention, Elodie RN ou Rachida LFI. Elle est fille. Non, Elodie RN.
Ah, d'accord.
Allez, je vous souhaite un bel été. Je vous souhaite un bel été. Merci à vous tous, quand même. Merci à toute l'équipe. Merci à Kevin Le Chip. Merci pour cette belle année. Merci aux co-auteurs qui m'ont aidé toute l'année. Merci à Fred, Muriel, Guillaume, Dan, Walter et Crystal. On les applaudit bien fort.
Bah, évidemment.
Merci à vous tous. Merci bien sûr aux auditeurs que j'ai rencontrés toute l'année après le spectacle. Les auditeurs, vous êtes les meilleurs auditeurs de France.
Ouais, c'est vrai. Dans vous êtes instant, les meilleurs auditeurs.
Meilleurs
France,
auditeurs de France et du monde.
Et du monde.
Instant, Gabriel Attal, voilà, je vous relance.
Waouh. Sur des rails. Et vous imaginez mon job de masser de ça.
C'est tout ça, ça.
Et on est payé pour ça.
Oui, enfin, vous voyez toujours l'économie, vous. Mais moi, le sens,
on
la morale. L'effort. Allez, il est 8h22. Dans un instant, mon invité, c'est Gabriel Attal, le Premier ministre. Et ça se passe sur RMC et BFM TV. À tout de suite.
RMC, 6h39.
Apolline Matin.
Merci d'écouter RMC. Il est 8h24.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Élise Dangean.
Dernier jour de campagne et une ultime polémique au Rassemblement National sur l'interdiction pour les binationaux d'accéder à certains postes stratégiques. L'un de ses députés aimerait voir la mesure élargie au gouvernement et a ciblé Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation nationale, dont il convoite le poste, mettant en doute sa loyauté. Une sortie qui a provoqué la colère d'Emmanuel Macron. Depuis Bruxelles, le président dénonce une parole désinhibée. Mais cette polémique ne semble pas faire bouger les lignes dans les intentions de vote. Selon le sondage Elab publié ce matin pour BFM TV et La Tribune dimanche, le RN reste stable à 36% des voix et pourrait même décrocher la majorité absolue. Un Donald Trump plein d'aplomb et un Joe Biden très embrouillé. Voilà comment on pourrait résumer le premier débat entre l'actuel président des États-Unis et son prédécesseur à 4 mois de l'élection américaine. Débat sous haute tension sur l'inflation, l'immigration ou encore le soutien à l'Ukraine. C'est la finale du top 14 ce soir, une première pour l'Union Bordeaux-Bègles qui va tenter d'arracher le titre au Stade Toulousain d'Antoine Dupont. Coup d'envoi à 21h05. Et puis demain, c'est le démarrage du Tour de France avec une première aussi, le peloton qui s'élancera depuis Florence en Italie pour rejoindre Nice où Vingegaard tentera de décrocher son troisième maillot jaune consécutif. Coup d'œil sur la météo avec beaucoup de soleil mais aussi des orages cet après-midi entre le Massif Central et la Franche-Comté. La Haute-Loire risque d'être particulièrement touché côté température cet après-midi, comptez entre 20 degrés à Brest, ça montera jusqu'à 33 à Grenoble.
La météo sur RMC avec Comme il faut. Plus de 100 magasins partout en France pour vous accompagner dans votre projet de store et fermeture.
C'était le rappel des titres d'Élise Dangean. Dans un instant, mon invité, c'est le Premier ministre, Gabriel Attal. Ça se passe sur RMC BFM TV.
RMC, 6h39.
Apolline Matin.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h30 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Gabriel Attal.
Bonjour Apolline de Malherbe.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le Premier ministre, bien sûr, et c'est dimanche, le premier tour des élections législatives. Tous les sondages donnent désormais le RN en tête et deux donnent même le RN avec une majorité absolue. Avant de vous poser un certain nombre de questions, je voudrais que vous écoutiez un témoignage. Il m'a été livré ce matin sur RMC par une auditrice. Elle s'appelle Alexandra. Elle vit à Lille. Et pour la première fois, elle a voté RN. Elle a voté RN aux européennes et elle s'apprête à voter à nouveau RN. Je voudrais que vous l'écoutiez et que vous me disiez ce que vous pouvez encore peut-être lui dire.
Je me suis fait agresser deux fois sur le lieu de travail. À un moment donné, on se lève pour aller bosser, on paye des impôts, on paye tout. Et Macron n'est même pas capable de préserver notre sécurité, quoi, quand même. Franchement, ça me fait mal. J'ai toujours été de gauche. Je me reconnais plus dans cette gauche. Et j'ai toujours été... Et là, honnêtement, mais j'en ai presque chialé de voter RN, quoi.
Et elle insistait ensuite en disant « J'en ai chialé de voter RN ». Qu'est-ce que vous dites, Alexandra ?
Il y a beaucoup de Français qui ont voté pour le Rassemblement National aux élections européennes pour envoyer un message de colère. Et j'ai eu l'occasion de le dire dès le lendemain de ces élections. Ce message, évidemment, qu'il a été entendu. C'est un message qui, notamment, nous demande d'aller beaucoup plus loin sur un certain nombre de sujets. Je pense aux questions de pouvoir d'achat et évidemment à la question de la sécurité. Ce que je dirais à madame, c'est que le Rassemblement National n'apportera aucune solution à ces problèmes. Et on l'a vu à l'occasion des différents débats, on y reviendra peut-être. Dès qu'on lève le voile sur leurs propositions, on voit qu'en réalité, c'est du vent. Sur la question de la sécurité, j'ai eu l'occasion de le dire hier, On a renforcé massivement les moyens des policiers et des gendarmes. Maintenant, ce qu'il faut, c'est un tournant pénal, notamment sur la délinquance des mineurs. J'ai fait des propositions extrêmement claires sur le sujet, très concrètes, qui nécessitent une loi et donc une majorité. C'est pour ça qu'avec les candidats Ensemble pour la République, on se présente pour la faire adopter.
Mais précisément, puisque vous parlez à l'instant de la question judiciaire et de la question pénale des mineurs, vous avez encore hier soir répété cette phrase, vous avez dit « tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter ». Je crois que les Français se retrouvent derrière ce principe. Et vous avez ajouté « je propose de rendre responsables les deux parents, même s'ils ne vivent plus sous le même toit ». RMC a eu accès cette semaine à une audition tout à fait exceptionnelle dans le bureau du juge pour mineurs à Bobigny. Il s'agissait d'un jeune, Adèle, de 15 ans. Ça n'est pas un récidiviste, hein. C'était la première fois qu'il participait aux émeutes, les émeutes de juillet dernier. C'était la fameuse application de la réforme des mineurs que vous avez mise en place, c'est-à-dire avec un premier volet pour dire oui, vous êtes ou non coupable, et un deuxième volet pour la sanction en elle-même. Et cette sanction, elle est donc tombée cette semaine pour ce jeune. Il avait jeté une bouteille en verre sur la police. Il a été condamné. Il était poursuivi, pour jet de projectile sur agent dépositaire de l'autorité de l'État. Et il a écopé d'un simple avertissement. Le juge a même précisé, ce ne sera pas inscrit sur votre casier judiciaire.
La réforme que vous évoquez, elle date d'il y a 3 ou 4 ans, je crois. Et effectivement, elle a permis que maintenant, il y ait une reconnaissance de la culpabilité, un déferrement beaucoup plus rapide. Et une sanction qui arrive 8 ou 9 mois plus tard, après ce qu'on appelle une période de probation pour évaluer si le jeune en question se remet dans le droit chemin ou pas. Moi, ce que je propose très concrètement, c'est de changer ça, notamment en cas
mais
de.
Mais c'est vous qui l'aviez changé. Enfin, c'est vous. C'est le gouvernement.
C'est le gouvernement du précédent mandat. C'était pas voilà.
Moi, c'est votre majorité qui a changé.
Je suis Premier ministre depuis un peu plus de 5 mois. Dès ma déclaration de politique générale, j'ai fixé le principe que vous avez rappelé et j'ai dit que je voulais changer ces règles. Je pense que la réforme que vous évoquez, elle a permis d'accélérer les délais. Maintenant, c'est sur la sanction.
En fait, elle a accéléré les délais avec la première Exactement. Comparution, c'est-à-dire le moment où on Exactement. Dit vous êtes coupable. Avant, mais en revanche, la sanction est du coup dans un deuxième temps.
Avant, je rappelle que dans plus d'un cas sur deux, un mineur était jugé une fois qu'il était devenu majeur, ce qui n'avait aucun sens. Donc maintenant, ça va plus vite, mais il faut que les sanctions soient plus efficaces. Je propose la mise en place d'une comparution immédiate pour les mineurs. Je propose une atténuation de ce qu'on appelle l'excuse de minorité dans un certain nombre de cas. Je propose qu'on retienne davantage la responsabilité des parents quand il y a manquement à l'obligation parentale.
Dans ce cas-là, puisque je viens vraiment sur cet exemple extrêmement concret, seule la mère était présente.
Exactement. Et vous savez que quand aujourd'hui des parents sont convoqués devant le juge des enfants et qu'ils ne s'y rendent pas, il n'y a pas de sanction. Donc moi, dans mes propositions, il y a le fait qu'il y ait désormais une amende.
Dans ces cas-là, on n'a pas tellement intérêt à accompagner son enfant. On préfère qu'il n'y ait pas de sanction, quoi.
Il n'y a pas de sanction pour les parents qui ne se rendent pas à l'audience.
D'accord.
Et ce que je propose, c'est que désormais, les parents,
s'ils ne se présentent pas, soient sanctionnés
financièrement.
Mais alors, est-ce que ça veut dire que dans le cas d'Adèle dont je parlais à l'instant, le père n'étant pas présent physiquement à l'audience, il serait demain avec vous sanctionné.
Oui. Et par ailleurs, ce que je propose également, c'est qu'il y ait des courtes peines d'isolement dès les premiers faits de délinquance. Parce que parfois, c'est vrai qu'on voit qu'on a tendance à attendre que la situation s'aggrave, que les actes soient graves pour prendre une sanction. Mais en réalité, c'est dès le début qu'il faut le faire. Y compris d'ailleurs à l'école. C'est pour ça que je fais des propositions sur l'école. C'est à l'école aussi qu'on doit apprendre les droits et devoirs, le respect des règles, le civisme. Donc sur tous ces sujets-là, il y a des mesures et des propositions qui sont très concrètes sur la composition pénale. Il y a beaucoup de Français qui me parlent des difficultés qu'ils ont avec les rodéos urbains. Un jeune qui fait du bruit avec son...
Ça fait 7 ans que vous êtes là. On en entend parler, des rodéos urbains.
J'entends parfaitement, Pauline de Malherbe.
Vous êtes arrivé, ils existaient déjà.
Il y a des choses qui ont été engagées. Moi, je suis Premier ministre depuis un peu plus de 5 mois. Dans toutes les fonctions qui ont été les miennes, notamment à l'éducation nationale auparavant, j'ai montré que je prenais des mesures extrêmement claires, je crois efficaces, sur un certain nombre de sujets de laïcité à l'école, sur les sanctions à l'école. J'ai fixé ce principe dès ma nomination. J'ai travaillé depuis 2 mois. J'ai proposé des mesures. Ces mesures, elles sont prêtes sur la composition pénale.
En fait, vous dites aux Français, donnez-moi un peu plus de temps. Quoi.
Désormais, sans juge, on pourra saisir, par exemple, la moto dans un rodéo urbain sur simple signalement.
En fait, vous avez juste besoin de temps. C'est ça ce que vous nous dites.
Ce que je dis, moi, c'est que ça fait un peu moins de 6 mois que je suis là, que j'ai identifié un certain nombre de problèmes auxquels je veux répondre, que j'ai lancé un certain nombre de chantiers, que les mesures, elles sont claires, qu'elles sont prêtes, elles sont dans notre programme. Pour les appliquer, il faut une majorité. Pour qu'on ait une majorité, il faut que les candidats Ensemble pour la République soit élu dans votre circonscription.
Vous l'avez dit à Emmanuel Macron, ça ?
Quoi donc ?
Pourquoi vous ne m'avez pas laissé plus de temps ?
Non, vous savez, moi, je ne regarde pas en arrière, j'essaye de regarder devant. Une fois qu'une décision est prise, que des élections sont organisées, je me bats parce que ce n'est pas uniquement d'ailleurs la question de moi, c'est la question des Français. Et on voit bien que dans les projets qui sont présentés en face, D'abord, je le crois, c'est des projets qui et des lignes politiques qui attiseraient beaucoup les tensions. On a une société qui est quelque part une cocotte minute. Il la ferait exploser, les extrêmes. Moi, je veux apaiser, je veux essayer de rassembler, je veux essayer d'unir. C'est vrai pour le Rassemblement National. On a vu, encore une fois, hier soir sur votre antenne, les propos absolument insupportables.
D'un député sortant, RN, vous faites référence aux propos de Roger Chardreau, qui, effectivement, s'est exprimé sur la question de la binationalité, estimant qu'on ne pouvait pas être ministre si on avait une double nationalité. Et il faisait référence notamment à votre prédécesseur à l'éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem.
Pas seulement, je crois qu'il a fait référence aussi à Rachid Dati, à Manuel Valls. Monsieur Chudeau, il est député, mais ce n'est pas simplement un député. Il est présenté par le Rassemblement.
Il demande des ministres, je précise même les mots, parce que les mots qu'il a utilisés, c'est des ministres franco-français.
Exactement. Et ce monsieur Chudeau, il n'est pas seulement député, il est présenté régulièrement par le Rassemblement national comme leur futur ministre de l'éducation nationale s'il venait à gagner ces élections. Monsieur Chudeau, donc, dit que quand on est un Français binational, c'est-à-dire que pour des raisons d'histoire familiale, d'histoire personnelle, on a une deuxième nationalité en plus de la nationalité française, on n'est pas digne de confiance pour occuper des postes à responsabilité. Et monsieur Chudeau, c'est pas le seul à le dire, puisqu'il y a 5 mois, madame Le Pen a présenté au Parlement une proposition de loi pour exclure de la fonction publique les Français binationaux. On parle de 3 500 000 Français qui sont peut-être franco-marocains, franco-italiens, franco-canadiens, franco-arméniens, qui sont parfaitement français. Derrière ça, il y a une idée qui a toujours été celle du Front National, déjà de Jean-Marie Le Pen, c'est qu'un binational est un demi-national, que vous êtes corruptible, que vous n'êtes pas loyal à la France. 3 500 000 Français qui, depuis plusieurs jours, se sentent humiliés, injuriés par le Rassemblement National. Je veux le dire, dans mon gouvernement, il y a des binationaux. Roland Lescure, ministre de l'Industrie franco-canadien, Fadila Khattabi, ministre des Personnes en situation de handicap, Rachida Dati, Chrysoula Zakharopoulou. Il y a des députés qui sont binationaux. Je pense à Nadia Hay sur la 7e circonscription des Yvelines, à Triel-sur-Seine, Conflans-Sainte-Honorine, qui est franco-marocaine, qui a été ministre. Elle est non seulement parfaitement française, mais elle se bat tous les jours pour la France et pour les Français. Et je m'étonne de voir que le Rassemblement National qui tient ses propos, en même temps présente dans le Val d'Oise une candidate franco-russe aux élections législatives, qui d'ailleurs a qualifié les Ukrainiens de néo-nazis. Donc c'est toujours à géométrie variable. Ils vous font croire que c'est soi-disant pour lutter contre les ingérences russes. Mais après, on voit que la conseillère défense de Jordan Bardella, elle est franco-russe, qui présente des franco-russes dans ses élections législatives. En réalité, c'est toujours la même chose. C'est un moyen de stigmatiser.
Et pour préciser les choses, Marine Le Pen, ce matin, s'est dite estomaquée par les propos de Roger Chudeau. Elle précise que ça n'a jamais été dans son programme et que ça n'est pas dans le programme du RN.
Il y a 5 mois, elle a fait une proposition de loi pour exclure les Français binationaux de responsabilité dans la fonction publique.
Est-ce que vous estimez que si le RN allait jusqu'au bout de sa logique, il devrait retirer l'investiture ou le soutien à Roger Chudeau?
Évidemment, mais vous savez, Apolline de Malherbe, il y a plus de 100 candidats du Rassemblement National dans cette élection, c'est-à-dire plus d'un sur cinq, qui ont tenu des propos soit racistes, soit homophobes, soit antisémites. Ils ont été identifiés par vos confrères du Monde, de Libération. Tous les exemples sont sur Internet. Ils concourent dans cette élection. Ils ne leur retirent pas leur investiture.
Gabriel Attal, pour autant, vous restez sur le nini?
Mais moi d'abord, je suis dans ce premier tour de cette élection. Donc, il y a un premier tour, les Français vont se battre. Je le dis ici, s'il y a un camp qui a été très clair dès le premier tour pour éviter la victoire des extrêmes, c'est nous. Le Rassemblement National...
Mais vous dites des extrêmes.
Oui, mais attendez, le Rassemblement National, la NUPES, il présente des candidats dans toutes les circonscriptions de France. Je suis le seul à avoir assumé de ne pas présenter des candidats dans une 60aine de circonscriptions. Pourquoi ? Précisément parce que je savais que dans cette circonscription, le fait qu'on présente un candidat risquait de faire gagner l'extrême droite ou la France insoumise.
C'est aussi, et on l'a vu, qu'il y avait des candidats d'abord des endroits où vous aviez plus de mal à trouver des candidats, non. Et où de toute façon vous saviez qu'ils ne marcheraient pas, qu'ils ne gagneraient pas.
Mais justement, Pauline de Malherbe, c'est parce qu'on savait qu'on ne pouvait pas gagner et que ça risquait de faire gagner les extrêmes. Donc dans toutes les autres circonscriptions, c'est-à-dire 500 circonscriptions où on a des candidats ensemble pour la République, s'ils sont là, c'est parce que c'est les mieux placés pour battre les extrêmes.
Mais il y a un certain nombre d'engagés dans votre camp qui disent ni, et ils précisent même ni RN ni LFI. C'est bien ni RN ni LFI, mais c'est RN et LFI que vous mettez dos à dos, ou c'est RN et Nouveau Front Populaire?
Moi d'abord, je me bats contre tous ceux qui carburent à la haine, à la stigmatisation et aux divisions. Ensuite, je me bats dans un premier tour. Et je dis aux Français, parce que moi, beaucoup de Français, quand je me déplace, m'interrogent et me disent, mais qu'est-ce que je fais si je me retrouve avec le RN contre la France insoumise?
Voilà, ils vous posent la question, vous leur dites quoi?
Je leur réponds qu'il y a un moyen de l'empêcher. C'est d'avoir un candidat ensemble pour la République au deuxième tour, qui permet d'éviter cette tenaille entre deux partis qui veulent vous matraquer fiscalement, deux partis qui, de manière différente, carburent à une forme de stigmatisation et ont des propos pour certains qui sont particulièrement ambigus sur des questions majeures. Maintenant, je vais vous le dire, moi je sais où sont mes valeurs, je prendrai toujours mes responsabilités.
Elles sont où vos valeurs ?
Mais moi je veux évidemment éviter que les extrêmes, et notamment l'extrême droite, puissent gagner ces élections.
Mais vous entendez bien ce que vous dites, Gabriel Attal. Vous dites les extrêmes et ensuite vous dites et notamment l'extrême droite. Mais ça veut dire qu'au fond, vous ne voulez ni l'un ni l'autre.
Parce que ce que je dis, c'est que si on veut que l'extrême droite ne gagne pas ces élections, c'est pas avec l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon qu'on y arrivera. On discute avec les Français, vous le faites aussi, vous avez des auditeurs. Les Français veulent pas de Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Le problème.
Et je précise d'ailleurs que Alexandra, qui un peu plus tard dans ce témoignage, disait qu'elle avait toujours voté pour la gauche, qu'elle allait même à des meetings de Jean-Luc Mélenchon, qu'elle avait été le rencontrer personnellement à la fête de l'UMA, et elle disait aujourd'hui il me fait honte, je ne peux plus voter pour lui.
Oui, et donc ce qui s'est passé, c'est que les partis de gauche modérés, en s'alliant avec Jean-Luc Mélenchon, alors qu'ils ont expliqué pendant toute la campagne des européennes, la main sur le cœur, qu'ils ne s'allieraient plus avec Jean-Luc Mélenchon, la réalité c'est qu'ils ont ruiné leur possibilité de victoire. Parce que les Français ne veulent pas de Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Et donc, la seule manière d'éviter le Rassemblement national majoritaire, Jordan Bardella à Matignon, un matraquage fiscal sur les Français qui bossent, un projet de division, de stigmatisation des Français qui ont une double nationalité, c'est de voter pour les candidats Ensemble pour la République.
Que feriez-vous différemment ? Vous avez encore hier, tout d'un coup, promis des référendums, je cite, sur des grandes questions.
Ouais.
Mais ça fait 7 ans qu'Emmanuel Macron nous dit qu'il va faire des référendums. Pourquoi vous en feriez maintenant et vous n'en avez pas fait depuis 7 ans ?
Dans la Constitution, le Premier ministre a la possibilité de proposer des référendums au Président de la République. Et j'ai dit, effectivement, qu'en tant que Premier ministre, encore une fois, ça fait 5 mois que je suis Premier ministre, je le proposerai parce que moi, j'ai vu les élections.
Vous le proposerez, mais on est bien d'accord, c'est quand même lui qui valide.
Ah de toute façon, je respecte la Constitution. Contrairement à Mme Le Pen et à M. Bardella.
Pourquoi est-ce que Emmanuel Macron, qui depuis 7 ans promet régulièrement des référendums sans le faire, au fond, il va faire la même chose avec vous. Il va vous promettre vos référendums, mais il ne le fera pas.
Je pense que les élections européennes, le résultat, ont été une forme de tournant. Les Français nous ont dit quelque chose dans ces élections. Dit quelque chose sur le fond, je le disais tout à l'heure, aller plus loin sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité. J'ai parlé de la sécurité. C'est pour ça que sur le pouvoir d'achat, je propose un certain nombre de mesures. Que les retraites de nos retraités soient systématiquement indexées sur l'inflation. Que la facture d'électricité baisse de 15% l'hiver prochain. Que les salaires des Français qui sont au-dessus du SMIC puissent augmenter plus facilement en allégeant les charges de leurs patrons. Tout ça, c'est clair, c'est financé, c'est net. Ensuite, il y a eu aussi un message dans ces élections sur la méthode, évidemment. Des Français qui disent on veut être davantage associés. On a fait un certain nombre de choses avec des conventions citoyennes. Moi, je pense que le référendum, c'est une pratique qui serait saine.
Et vous dites sur des grandes questions. C'est quoi les grandes questions ?
Mais justement, je pense que précisément, si on veut vraiment donner la parole associée, c'est peut-être pas à moi, là, tout de suite, d'arrêter quelles sont les questions. Je pense qu'avec les partenaires sociaux, et je vais vous dire, même avec les partis de l'opposition, s'il y a des sujets sur lesquels les partis de l'opposition sont favorables et que nous, on est plutôt défavorables, moi, ça me choquerait pas qu'on les fasse trancher par les Français à l'occasion de référendum. Mais tout ça, ça se construit. Si les candidats Ensemble pour la République ont une majorité, que je suis Premier ministre dans les prochaines semaines et les prochains mois, eh ben évidemment, c'est quelque chose sur lequel je travaillerai avec les partenaires sociaux, avec les forces politiques.
Quand Emmanuel Macron, lors de sa grande conférence de presse au début de cette campagne, a dit par exemple qu'il souhaitait un grand débat sur la laïcité, ça vous paraît une des choses qu'il faut faire maintenant, un grand débat sur la laïcité, peut-être même un référendum sur la laïcité ?
On doit toujours chercher à faire appliquer nos règles et à faire respecter la laïcité. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Quand j'ai été ministre de l'Éducation nationale, je rappelle.
Un grand débat. Est-ce qu'il faut.
Quand j'ai été ministre de l'Éducation nationale, j'ai moi-même garanti l'application de la loi de 2004 sur la laïcité à l'école en prenant une décision qui était attendue par nos chefs d'établissement, par beaucoup d'enseignants depuis des années, l'interdiction du port de l'abaya et du camis dans les établissements scolaires. J'ai été nommé ministre de l'Éducation nationale. Je me suis engagé sur ce sujet. J'ai pris la décision. Aujourd'hui, il n'y a plus d'abaya dans nos établissements scolaires. Donc oui, faire respecter la laïcité, c'est essentiel. Et si on veut réussir à le faire, il faut évidemment associer l'ensemble des acteurs, ne serait-ce que pour qu'ils fassent remonter les atteintes à la laïcité et pour qu'on trouve tous ensemble des solutions.
Gabriel Attal, vous êtes Premier ministre, vous parliez à l'instant de la question du respect des institutions. Qui est aujourd'hui le chef des armées ? C'est vous ou c'est le président de la République ?
C'est le président de la République, c'est la Constitution, c'est la manière dont le général de Gaulle l'a toujours dit et présenté. Le Premier ministre, il est responsable de la défense nationale. Ce n'est pas pareil. Ça veut dire quoi, responsable de la défense nationale ? Ça veut dire que le Premier ministre, et c'est ma responsabilité depuis près de 6 mois maintenant, doit s'assurer que tous nos outils de défense sont toujours opérationnels. En termes d'entretien, en termes de présence sur le sol national. Ça, c'est ma responsabilité de Premier ministre, tous les jours. Mais le chef des armées, c'est le chef de l'État.
Donc le chef des armées, pour vous, ce titre n'est pas honorifique, comme le dit Marine Le Pen à propos de ce titre pour Emmanuel Macron.
C'est grave ce qu'a fait Marine Le Pen, parce que Vous savez, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas ou fonctionnent mal dans nos institutions. Mais enfin, s'il y a une chose qui fonctionne, c'est la chaîne de commandement. Elle est très claire. Et pourquoi on a intérêt à ce qu'elle fonctionne ? Parce que ça envoie un message au monde entier. C'est que si la France est menacée ou la France est attaquée, il n'y aura pas de débat au sommet de l'État, il n'y aura pas de blocage. Évidemment qu'elle se protégera toujours. Ce qu'a fait Marine Le Pen, c'est un tournant grave. Ils ne sont pas élus. Ils considèrent que c'est déjà fait, peut-être. Ils se ruent déjà sur le bouton nucléaire. Déjà, ils commencent à dire, c'est nous qui allons reprendre toutes les prérogatives du chef de l'État, qui ne sera plus chef des armées. Vous vous rendez compte le message qui est envoyé au monde ? Vous vous rendez compte le message qui est envoyé aux puissances étrangères
dans certaines qui menacent nos intérêts ? Et à cela, Marine Le Pen vous répond, puisque sur Twitter hier soir, elle a dit « Il serait utile que Gabriel Attal lise la Constitution, mieux vaut tard que jamais », dit-elle. Et elle cite le titre 3 de la Constitution sur le gouvernement, article 20. « Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l'administration et de la force armée. »
Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le gouvernement, il est chargé, évidemment, de l'entretien, de la formation, des budgets des armées. Le chef des armées, c'est dans la Constitution, c'est ainsi que l'a voulu le général de Gaulle. Et je vais vous dire, c'est aussi ce qui protège les Français, parce que ça envoie un message très clair au monde, c'est le président de la République. Donc peut-être que Jordan Bardella, 28 ans, qui n'a jamais géré d'administration, considère que désormais il va aussi être chef des armées.
Est-ce que c'est un problème ça ? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez dire que le fait qu'il soit si juvénile et...
Non, c'est pas moi qui vais faire des critiques sur l'âge, Apolline de Malherbe, j'ai 35 ans. Ce que je dis simplement, c'est que si j'avais pas été ministre dans des fonctions importantes, à Bercy, au ministère de l'Éducation nationale, je ne me serais pas senti suffisamment préparé pour être Premier ministre de mon pays.
Vous, voulez, ça, dire que, vous voulez dire que si vous étiez à sa place, à son âge, vous lui auriez, vous seriez dit « je ne suis pas
chacun
prêt ».
Chacun se présente à des élections, chacun fait comme il le sent et se présente devant les Français. Et surtout, c'est les Français qui décident. Ce que je dis, c'est que là, on voit bien qu'on a Jordan Bardella, tenu quelque part par Marine Le Pen, qui est en train d'expliquer, si les députés RN ont une majorité, que je suis Premier ministre, je disputerai et je viendrai prendre au président de la République son rôle de chef des armées. Je le dis, c'est dangereux pour la sécurité de notre pays, parce que les puissances étrangères qui menacent nos intérêts, elles regardent ça, qu'est-ce qu'elles se disent ? Elles se frottent les mains. Elles se disent, vous imaginez, si jamais on atteint aux intérêts de la France, regardez, ça va être le boxon au sommet de l'État, ils seront pas d'accord entre eux, et donc on aura une forme de brèche dans laquelle on pourra s'engouffrer. Notre chaîne de commandement, elle a toujours été très claire, et je pense que c'est pour la sécurité des Français, qu'elle doit rester très claire.
Sur la sécurité, à quoi faut-il s'attendre pour le 7 au soir, en cas de victoire du RN ? Certains, et notamment les renseignements généraux, territoriaux, disent qu'ils redoutent d'éventuelles émeutes. Qui tiendra les comptes ? Qui s'occupera d'envoyer la police sur le terrain ? Qui sera en charge le 7 au soir, le 8 dans la journée ?
D'abord, je me bats dans cette campagne pour que les candidats Ensemble pour la République puissent gagner. Ensuite, il y a un gouvernement qui est au travail.
Vous resterez le temps qu'il faudra, c'est-à-dire même si vous n'avez pas la majorité, vous seriez prêt à rester le temps qu'il faut pour que l'ordre soit rétabli ?
Je ne suis pas là pour faire des hypothèses, pour dire ce qui se passera, etc. Je me bats dans ces élections. Et donc, je le dis ici, évidemment, on se bat tous les jours et on travaille tous les jours pour la sécurité des Français. Évidemment, on le fera toujours. Maintenant, je le redis ici, le Rassemblement National a, je le disais tout à l'heure, des candidats qui tiennent des propos haineux et violents. On le voit depuis plusieurs jours. Il y a aussi, malheureusement, des gens dans notre pays qui ont des pulsions de haine, d'agressivité, qui se libèrent quelque part avec la perspective de l'arrivée du RN. On a vu il y a quelques jours, quelques semaines, le fils d'un cadre du Front National.
Le soir des élections européennes.
Voilà, qui a été interpellé pour agression homophobe.
Et qui condamné d'ailleurs depuis.
Voilà, et qui, quand il a été interrogé, a dit vivement dans 3 semaines, sous-entendu après les législatives, on pourra casser du PD comme on veut. Voilà ce que c'est. On a vu chez vos confrères de France 2 une femme aide-soignante victime de racisme par des personnes sympathisantes ou adhérentes, je ne sais plus, du RN. Donc la réalité, c'est que il libère quelque part aussi.
Je vous repose la question de qui tiendrait le pays. Gérald Darmanin, lui, a dit qu'il ne souhaitait pas rester au gouvernement s'il est élu et qu'il préférerait siéger à l'Assemblée. Il serait tout de même aux manettes. Vous seriez tout de même aux manettes.
Je vais vous dire de manière très claire, il y a un gouvernement aux manettes. Il y aura toujours un gouvernement aux manettes. Là-dessus, évidemment, qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir des Français de ce point de vue-là. L'inquiétude, elle est si la majorité change et si vous avez le Rassemblement National qui venait à gagner ces élections.
Et vous, ça ne vous a pas traversé l'esprit, comme Gérald Darmanin, de dire au fond, je passe à autre chose ?
Mais moi, je suis engagé dans cette campagne, je me bats pour nos candidats, je me bats pour qu'on ait une majorité. encore une fois, parce que je vois les projets de matraquage fiscal, et je le dis aux Français, ne vous faites pas avoir. Vous faites pas avoir par la NUPES qui veut remettre des charges sur les heures supplémentaires alors qu'il y a un salarié sur deux qui travaille, qui veut augmenter la CSG sur nos retraités et sur ceux qui travaillent. Vous faites pas avoir par le Rassemblement National qui explique qu'ils vont supprimer les impôts jusqu'à 30 ans, vous permettre de ne plus travailler à partir de 60 et donc entre les deux concentrer toute la pression fiscale sur les Français qui ont entre 30 et 60 ans et qui travaillent. Vous faites pas avoir par le Rassemblement National qui dit on va baisser tous les taux de TVA alors que partout où ça a été fait, y compris
mais encore
pays,
une fois, vous êtes sur des questions, des questions fiscales, de sérieux budgétaires. Et on l'a entendu avec Alexandra, mais avec beaucoup d'autres témoignages, c'est pas sur cette question-là.
Parce qu'on a abordé les questions de sécurité tout à l'heure, que j'ai par ailleurs abordé les questions de valeur, qui sont majeures aussi. Mais j'aborde aussi les questions de pouvoir d'achat, parce que les Français, évidemment, qui sont attentifs et attachés aussi à ces sujets-là. Et que la réalité, c'est que ce soit le Rassemblement National ou la NUPES, c'est un projet de matraquage fiscal assumé dans l'un des deux cas, masqué pour l'autre, mais qui serait forcé par des mesures de dépenses massives.
Merci Gabriel Attal d'être venu répondre à mes questions ce matin. Vous êtes effectivement, au moment où on se parle, le Premier ministre. Il est 8h52 sur RMC et BFM TV.